Direct en jeu, la radio insolite, le bonheur d'être toujours à Cannes avec un temps merveilleux, avec des rencontres insolites, avec des gens qui sont parfois dans les coulisses, dans l'ombre. Et là, imaginez, si je vous dis Moati, vous allez me répondre « Oh, on le connaît, c'est Serge ». Ben non, non, parce que lui, il s'appelle Michel. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous avez quelque chose à voir avec Serge Moati ou pas du tout ?
Non, rien.
D'accord, ok. Pourtant, vous avez le même nom. Vous avez la chance, hein.
Ben, ouais.
D'accord. Comme moi, j'ai le même nom que l'inventeur de la carte à puce, mais c'est pas moi. Dites, je n'ai pas affaire à n'importe qui, hein. Docteur en sociologie, professeur à l'université, journaliste. C'est du sérieux, tout ça, hein ?
Oui, mais en même temps, c'est le cas de pas mal de gens qui finissent par écrire des livres.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller si loin ? Parce que bon, docteur en sociologie, j'ai quand même des études plus.
Écoute, non, en fait, je l'ai fait en deux temps. J'avais d'abord fait une carrière universitaire assez modeste. Ensuite, comme vous l'avez dit, j'étais journaliste pendant presque 20 ans. Et puis, j'ai repris des études sur le tard, comme on dit. Et là, j'étais jusqu'au bout, on peut pas aller plus loin, un doctorat. Sociologie, parce que ça me semblait pas si loin du journalisme que ça. Et en effet, j'ai tiré un peu la sociologie. Je n'ai pas été le premier à le faire. Il y a pas mal de sociologues qui avaient ce parcours antérieur. Mmh. J'ai tiré la sociologie vers le journalisme et j'ai enseigné à la fois les fondements de la socio, mais aussi des choses beaucoup plus techniques qui sont liées au quotidien du journalisme. Donc voilà, non, ça ne me semble pas si héroïque ou curieux que ça.
Non, mais moi je ne suis pas docteur en sociologie, moi, par exemple.
Oui, mais bon, c'est nobody's perfect, mais...
I am perfect, merci. I am nobody, pardon, je me suis trompé. C'est I am nobody, donc très gentil de vous m'en remercier.
C'est pas si grave que ça.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers l'écriture ? Parce que bon, c'est pas la même chose. Se mettre devant une feuille blanche, prendre un stylo, une plume ou prendre un ordinateur pour partir de la page 1 jusqu'à je ne sais combien de pages, c'est quand même...
Ben là, vous parlez du roman, mais écrire pour un journaliste, c'est quand même une habitude quotidienne. Donc ça vient aussi de loin. Après, passer au roman... Je sais pas, sans doute de déborder justement les frontières quand même strictes, hein, et contraintes du journalisme. Mmh. On doit dire que le vrai. En principe, on doit pas broder, on doit pas se laisser aller aux émotions, etc. Donc les faits, parfois, même s'ils sont têtus et si c'est la matière première du journalisme, des fois on a envie un peu de les dépasser et de se débrider un peu. Donc le roman est, je pense, idéal pour ça.
Et puis c'est vrai que dans le journalisme, vous êtes toujours limité par un nombre de mots. Moi, je suis fasciné de pouvoir voir un journaliste faire un article en disant qu'il doit faire 2500 mots. comment il fait pour compter ? Je ne sais pas s'il faut les compter l'un derrière l'autre. Puis c'est parfois un peu limitatif aussi, ça c'est vrai. Alors qu'un roman...
Non, littérature, c'est vrai aussi. Il y a de plus en plus de contraintes de signes et de mots dans la littérature, parce que les gens, je crois, enfin, c'est en tout cas un retour que je vois assez souvent de la part des éditeurs et même des lecteurs. Les pavés sont en perte de vitesse, hein. Les gros livres se vendent moins.
Pas 600 pages, okay. Je ne peux pas.
Bah, voyez, donc il y a aussi cette contrainte-là, hein, qui était essentiellement liée à l'écriture journalistique, qui commence à gagner la littérature, où on nous demande de faire des romans plutôt entre 250 et 300 pages qu'au-delà de 400. Quoi.
D'accord.
Et 600, n'en parlons plus.
Pitié, au secours, pas ça. Faites un résumé.
Mais ça va avec le temps, hein, dans lequel on vit, où les choses s'accélèrent, les choses vont vite, il faut des formats courts, des épisodes plutôt que des longs films, etc.
Mmh, tout à fait, oui. Vous avez écrit pas mal de choses, par exemple Retour à Whitechapel, et puis vous avez même écrit Tu n'auras pas peur, qui a reçu le prix de Cognac 2017. Et le dernier en date, c'est Darwin, le dernier chapitre, qui a reçu le prix Max Gallo en 2024. Vous avez, quand vous écrivez, vous avez un thème privilégié ou vous vous laissez guider par votre envie ?
Non, la deuxième option, j'ai pas de thème. Rien qu'en citant les thématiques là, les titres, ça va de l'affaire de Jack l'Éventreur au voyage de Darwin, en passant par le Dark Web sur les trois livres que vous venez d'évoquer. Donc on est sur des sujets très 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 différents, des époques très différentes, et c'est vraiment c'est une émotion qui moi me traverse et que j'ai envie de nourrir et de porter jusqu'à un récit long, donc un roman. Voilà.
Alors là, on est à Cannes et moi j'ai trouvé très original votre dernier livre en date qui est sorti, bah, il est tout frais, il est sorti la semaine dernière, le 7 mai.
Ouais,
Et
c'est
donc
ça.
c'est Rebecca dans l'ombre d'Hollywood. Là, j'allais dire, vous vous attaquez, comment dire, à un film culte, un film incroyable, oscarisé, d'un type pas très connu qui s'appelle Alfred Hitchcock. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est une histoire vraie?
Écoutez, c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, une question qu'on me pose presque à chacun de mes livres, puisque j'ai un peu l'habitude de faire ça, de mélanger des choses qui sont vraiment tirées du réel, hein, qui sont même des débuts d'histoire totalement vrais, totalement documentés, et parfois longuement documentés. Vous avez cité tout à l'heure Retour à Whitechapel, qui est donc une enquête autour de Jack l'Éventreur. J'ai mis 3 ans de préparation avant d'écrire la première phrase de ce roman, donc il y a une
3 ans.
vraie. 3 ans. Bah oui, bah il y a des sujets comme ça sur lesquels, parce qu'on a aussi écrit beaucoup de bêtises, beaucoup de sottises, beaucoup d'inexactitudes. Donc il faut travailler le matériau, la matière, la documentation. Donc j'avais été pendant 3 années à Londres aux Archives nationales pour avoir les dossiers police, justice, médicaux, etc. Avant de commencer à écrire le bouquin. Donc il y a forcément du vrai. Il y a forcément du vrai, beaucoup de choses qui sont pas seulement réalistes, mais qui sont vraies. Et à partir de ça, j'entre vraiment dans l'univers du roman en insérant des personnages, ou au moins un personnage fictif qui va nous guider dans cet univers de non-fiction, mais en y introduisant évidemment des éléments de l'imagination. Pour Rebecca, c'est la même chose. Je suis parti évidemment du film lui-même, des anecdotes qui tournent autour du film, des mémoires des personnages, donc en particulier de Judith Anderson, la narratrice de mon roman, qui est la fameuse Mrs. Danvers de Rebecca, la sinistre gouvernante de Manderley, qui a donné un certain nombre d'interviews, hein, après Rebecca jusqu'à sa mort. Et j'en ai bâti une espèce de contre-champ du tournage de Rebecca, donc ce qui se passe à la fois dans l'ombre et dans les coulisses pendant le tournage de ce film, qui en effet, comme vous l'avez dit, culte. Parce que, bah, pourquoi ce choix-là? Parce que il me semble que quand on écrit des romans noirs, on tourne sans arrêt, un peu tout le temps autour d'Hitchcock. Et un jour, je crois qu'il faut l'affronter un peu de face. Et
Carrément.
quel meilleur angle d'attaque que Rebecca, qui est pour moi le précipice absolu du cinéma d'Hitchcock, hein, du mystère, du doute, de l'angoisse, du non-dit, du non-montré, ce qui est un comble au cinéma, des choses qui devraient être à l'image, qui ne le sont pas. Et puis, beaucoup d'absences. Hein. Rebecca, par exemple, c'est le prénom d'une femme qu'on ne voit jamais. C'est
Exact.
extraordinaire. Rebecca de Winter, on ne la voit pas. Elle est morte quand commence le film, et on
Tout
la verra même pas en flashback. Et d'autre part, l'héroïne, jouée par Joan Fontaine, c'est une héroïne dont on ignore le nom et le prénom. C'est assez extraordinaire aussi. Voilà, elle n'est jamais appelée par son prénom. Voilà. Donc un prénom d'une femme absente et une héroïne présente dont on ignore le nom, tout ça, ça faisait, à mon avis, des éléments assez incroyables pour commencer une histoire de mystère et de meurtre, puisqu'il y a aussi des meurtres. C'est aussi un film, voyez comment le lapsus. C'est aussi un roman sur la périphérie du tournage dans lesquels, dans la vraie vie, plusieurs crimes, plusieurs assassinats ont eu lieu.
Alors, pour info, Rebecca, on la voit, mais sur un tableau, dans une image un peu lointaine et tout. Mais c'est vrai que, bon, moi j'ai regardé le film dernièrement, je me suis dit, tiens, c'est original, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait ressortir aujourd'hui, il serait toujours d'actualité. C'est
Oui,
ça.
c'est vrai. Il est complètement contemporain. Alors, pour être tout à fait précis, le tableau ne représente pas Rebecca. Il représente une ancêtre des deux Winter. C'est une Madame de Winter
Bah non, vous ne
passée,
vous ne
dont
me
Rebecca s'inspire pour créer son costume lors d'un bal masqué avant sa mort. Mais c'est pas Rebecca qui est sur le tableau.
Vous m'avez cassé
C'est presque le fantôme de Rebecca. C'est encore pire.
vous m'avez cassé toute la magie là, c'est pas possible.
Hein.
Il va falloir que je
Non,
revoie.
Rebecca, de fait, on la voit jamais,
Bon.
même pas en tableau, même
D'accord.
pas en photo. On la voit pas. Elle est absente. À croire qu'elle n'existe pas ou qu'elle existe que sous forme de ce fantôme, parce que c'est une hantise permanente. Elle est là tout le temps, en fait, là.
Exactement, tout à fait. Bon. Question gentille maintenant. Vous avez mis 3 ans, comment dire, à commencer à mettre la première ligne. Vous avez mis combien de temps à l'écrire?
Rebecca?
Oui.
Oh, beaucoup moins, quelques mois.
Ah, quand même.
Quelques mois. Oui, mais je dirais c'est le minimum. Enfin, pour la documentation, les relectures de Daphné du Maurier, le revisionnage du film, la préparation, les interviews des personnages de John Fontaine, de Laurence Olivier, de Judith Anderson, d'Hitchcock aussi, parce qu'il a dit beaucoup de choses aussi sur le tournage de Rebecca, qui est quand même son premier film américain, donc c'était un enjeu important aussi pour Alfred Hitchcock. Donc tout ça sur, je sais pas, entre 7 et 8 mois entre préparation, documentation, écriture, c'est pas tant, c'est pas cher payé, je dirais.
Ah. Il faut lire le livre d'abord et regarder le film après, ou on peut faire le contraire?
Je sais pas, moi j'aurais tendance à dire que d'avoir le film en tête quand on lit le bouquin, c'est sans doute un plus parce que ça complète des passages dans lesquels on est très raccord. Par exemple, il y a des moments où je mets le minutage du time code précis sur une scène, entre parenthèses, enfin, c'est la narratrice qui le donne, puisqu'elle a, elle, je pense qu'elle parle parfois en revisionnant le film, donc sur une vidéo ou je sais pas, sur un magnétoscope. Mais donc, c'est bien d'avoir en tout cas les scènes clés du film bien en tête pour apprécier. Mais je pense qu'on peut lire aussi le bouquin sans jamais avoir vu le film et sans le voir après non plus. C'est une autre manière de faire.
Ouais, mais je suppose quand même que quand on a lu le livre ou quand on a vu le film, on apprend des choses de manière un peu différente.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un contre-champ ou c'est un hors-champ du film et du livre de Daphné du Maurier. On est sur une troisième époque, si j'ose dire, parce
Oui.
qu'entre le film de Hitchcock et le roman, il y a déjà des glissements, hein, il y a déjà des prises de distance, des différences, hein, parfois assez fortes, parfois des choses qui sont édulcorées, par exemple la dimension homosexuelle de la gouvernante est très très estompée dans le film d'Hitchcock, alors qu'elle est beaucoup moins dans le roman de Daphné du Maurier. Moi, je reviens un peu là-dessus avec ironie, puisque Judith Anderson, qui est accusée enfin accusée, qui est en tout cas soupçonnée d'avoir eu des attitudes lesbiennes, entre guillemets, pendant le tournage, en rit dans ses mémoires et revient sur des scènes qui sont un peu estompées dans le film, mais alors qu'elles ne le sont pas dans le roman de Daphné du Maurier.
Je pense que c'est le type de sujet qui ne se traitait pas à l'époque.
En effet, c'était même plus que ça. C'était sévèrement contrôlé par les studios qui voulaient pas. Il y avait un code, hein, un code moral, hein, qui s'imposait aux studios. Hein. On est en 1939, hein, qui interdisait absolument ce type de référence, en tout cas de manière explicite.
D'accord. J'ai vu dans une présentation qu'on faisait souvent une correspondance avec l'histoire et le film de Jane Eyre. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que Hitchcock s'était inspiré de l'histoire de Jane Eyre et est-ce que c'était la même histoire, quasiment?
Non, alors moi je trouve pas que ce soit la même histoire. Alors il y a une dimension un petit peu gothique, hein,
Oui,
même si c'est un film américain,
exactement.
c'est le premier film américain d'Hitchcock, mais c'est un film extrêmement anglais par le style, hein, l'atmosphère très très gothique anglais, presque victorienne, hein, de Manderley, de tout le protocole de ces grandes maisons britanniques, etc., qu'on peut retrouver dans Jane Eyre, mais je trouve pas, et quant à savoir si Hitchcock s'en est inspiré, j'en ai jamais entendu parler, mais je pense que le roman de Daphné du Maurier suffisait à Hitchcock pour fabriquer son Rebecca.
Vos projets futurs, vous avez déjà une idée ?
Pardon ?
Vos projets futurs ?
Non, je ne sais pas du tout. J'ai toujours plusieurs choses qui sont en pré-rodage, qui sont des squelettes de projets, mais je me décide au dernier moment, après une conversation avec mon éditrice. On part dans une direction après avoir fait l'état des lieux, si j'ose dire.
D'accord.
Donc là, je ne sais pas.
Je suppose que le livre qui est sorti le 7 mai, donc on le retrouve dans toutes les bonnes librairies.
Mais j'espère bien, en tout cas, oui, j'espère, et les bonnes et les moins bonnes, en tout cas, dans le plus de librairies possible. C'est un peu le travail des diffuseurs.
Il y a moyen d'en découvrir certains éléments comme sur la toile, peut-être de savoir un peu qui vous êtes et ce que vous avez fait. Il y a un site internet.
Comment on appelle ça, un teaser ou un trailer qui circule, hein, qui doit être sur YouTube, sur Instagram. Mm-hmm. Moi, je l'ai vu passer. Donc, c'est une bande-annonce, hein, qui doit faire 2 minutes, quelque chose comme ça, donc qui lance le
livre.
Sinon, il y a des. Moi, j'ai pas de site particulier. Je sais qu'il y a une page Wikipédia sur moi qui renvoie sur un certain nombre de liens, mais sur le site de mon éditeur aussi, je suppose. Mais pour ce qui concerne Rebecca, vraiment, moi, je l'ai adoré. J'ai été surpris. Mon éditeur me l'avait fait passer il y a une quinzaine de jours. Là, le trailer, la bande-annonce, j'ai trouvé ça très très réussi. Il y a l'atmosphère à la fois du roman, mais surtout d'Hitchcock, très remise à jour, hein, et très très prenante. Moi, ça m'a alors que j'étais le dernier à pouvoir être surpris a priori par Rebecca, j'ai été assez saisi par le travail. Donc c'est un bon truc, c'est une bonne entrée.
D'accord. J'ai cru que vous alliez me dire que vous aviez adoré le livre. Je trouvais ça un peu naturel, parce que c'est vous qui l'avez écrit.
J'ai adoré le livre de Daphné du Maurier. Oui, ça,
le vôtre, si je peux faire aussi.
Non, j'ai été surpris. C'est ça que d'accord. Surpris par... Parce que c'est une bande-annonce, hein, des images plaquées sur un roman, quel qu'il soit, même si c'est le sien, c'est toujours nouveau et surprenant, j'espère. En tout cas, moi, ça l'a été.
D'accord. Écoutez, moi je voulais vous remercier après ces quelques minutes pour vous faire découvrir tout cela. N'hésitez pas à aller rentrer dans une librairie pour voir justement ce nouveau roman histoire Rebecca dans l'ombre d'Hollywood par Michel Moatti. Vous allez vous régaler, vous allez passer un bon moment de détente. Merci à vous.
Merci beaucoup.